Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'analyse où nous croisons les perspectives pour éclairer les grands tournants de l'histoire.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous partons en avril 2009, en Moldavie. C'est un moment où quelques SMS et, tu sais, des messages de 140 caractères sur Twitter ont suffi pour faire vaciller un gouvernement entier.
Oui, c'est ce qu'on appelle souvent la révolution Twitter, en fait.
Exactement. Le contexte, c'est l'élection législative du 5 avril. Le Parti des communistes de Vladimir Voronin remporte officiellement près de la moitié des suffrages. Et là, ça déclenche un soulèvement fulgurant de la jeunesse.
Un moment de rupture totale, oui, qui a paralysé le pays d'une manière assez inédite.
Ce qui nous amène à notre question centrale, ce soulèvement était-il un sursaut démocratique légitime face à des élections truquées ou, au contraire, une dérive violente qui a menacé l'état de droit? En tant qu'analyste, je suis convaincue que ce mouvement civil était une réponse inévitable et proportionnée aux manipulations électorales du pouvoir.
Et de mon côté, je suis persuadé que la destruction physique des institutions par les manifestants a gravement mis en péril la République, et ce, indépendamment des frustrations initiales.
Pour bien comprendre, il faut regarder le terreau de cette élection. On parle de listes électorales artificiellement gonflées, avec carrément des personnes décédées inscrites dessus.
C'est vrai que les allégations de fraude étaient massives.
Massives et flagrantes, oui. Et ce décalage entre la réalité sur le terrain et les résultats officiels, c'est ce qui a poussé cette première génération post-URS à réagir. Et de manière pacifique au début.
Pacifique ? Au tout début, oui.
Ils ont utilisé Twitter et les SMS pour s'organiser. Ça leur a permis de contourner une télévision publique qui était sous contrôle total de l'État.
C'était très novateur.
L'innovation technologique est indéniable, je te l'accorde. Mais il y a un paradoxe essentiel qu'on ne peut pas ignorer ici.
Lequel ?
Les observateurs internationaux, et notamment l'OSCE, ont d'abord jugé le scrutin comme étant techniquement correct.
Techniquement correct le jour J, oui.
Mais ça ne veut rien dire pour les listes électorales.
Laisse-moi préciser, l'OSCE évalue la procédure le jour du vote. Les urnes sont scellées, le secret est respecté. Je sais bien que la fraude dénoncée se situait en amont, dans l'opacité des registres administratifs.
Voilà, c'est exactement ça le cœur du problème.
Sauf que mon vrai problème, c'est le point de rupture du 7 avril. 30 000 manifestants à Chisinau, c'est impressionnant. Mais quand on force les portes du Parlement et qu'on brûle l'original de la déclaration d'indépendance moldave, on n'est plus dans une manifestation numérique pacifique.
Non, on est dans la colère.
On est dans la destruction physique de l'État. C'est une ligne rouge.
Mais comment veux-tu que la société civile réagisse quand les mécanismes légaux sont eux-mêmes corrompus?
Il y avait des recours institutionnels.
Quel recours? La solution proposée par la Cour constitutionnelle face à la crise, c'était un simple recomptage des voix. Recompter des bulletins issus d'une liste falsifiée en amont, c'est simplement certifier une fraude.
Pas nécessairement.
Si, en fait, c'est valider l'illusion d'une procédure et espérer que le peuple s'en contentera gentiment.
Je ne partage absolument pas cette analyse sur le blocage institutionnel. Rejeter les institutions en bloc a plongé le pays dans un vide constitutionnel vraiment dangereux.
Un vide provoqué par le pouvoir lui-même.
Non, rappelons la mécanique parlementaire de l'époque. Pour élire la présidente Zinaïda Greciani, le Parti communiste avait besoin de 61 sièges.
Et ils en avaient 60.
Exactement, il ne manquait qu'une seule voix. L'opposition a formé un front de boycott absolu. En refusant de siéger, ils ont rendu la formation du gouvernement impossible.
C'était leur seul levier politique viable à ce moment-là.
Peut-être. Mais face à cette paralysie avec des bâtiments en feu, Vladimir Voronin était d'ailleurs persuadé qu'il s'agissait d'un coup d'État orchestré par la Roumanie voisine.
Ah, cette théorie du complot roumain, c'est surtout la preuve d'une panique autoritaire. Et cette panique, elle a eu des conséquences tragiques dans la nuit du 7 au 8 avril.
Tu parles de l'intervention de la police ?
Oui. Les forces de l'ordre ont réprimé la jeunesse avec une brutalité inouïe. La mort de Valeriu Bobok en est la preuve accablante. Ce jeune homme a été battu à mort par la police sur la place centrale.
C'est un drame terrible, c'est certain.
Et les caméras de vidéosurveillance l'ont capturé. Le cynisme des autorités qui ont couvert ce meurtre en invoquant une intoxication accidentelle, ça montre que l'appareil d'État était devenu prédateur. C'est cette violence étatique, dissimulée et mortelle qui retire toute légitimité au gouvernement, bien plus que quelques bâtiments brûlés.
Je te rejoins sur le fait que la violence d'État, surtout lorsqu'elle est couverte par des mensonges, est une faillite morale absolue. La mort de Valeriu Bobok est injustifiable.
Nous sommes d'accord là-dessus.
Oui, mais le chaos qui appelle le chaos, ça n'est jamais une solution durable. Détruire le Parlement n'a pas rendu la justice plus rapide, ni l'élection plus transparente. L'effondrement institutionnel ne remplace jamais la construction démocratique, même face à la colère.
Nous touchons vraiment au cœur de notre tension aujourd'hui. Cette difficulté de choisir entre la rébellion légitime face à un système vicié et ton insistance sur la nécessité viscérale de préserver le cadre institutionnel.
Absolument. Bien que je croie que nous convergions sur un point de bascule crucial.
Lequel ?
Les exactions policières dissimulées de la nuit du 7 avril, elles ont définitivement rompu le contrat social. L'État de Voronin a irrémédiablement perdu cette nuit-là la confiance d'une jeunesse qui maîtrisait déjà les codes d'un nouveau monde.
Tout à fait. Ces événements de 2009 illustrent de manière saisissante la complexité des transitions dans l'espace post-soviétique. L'émergence d'une organisation civique horizontale s'est violemment heurtée aux vieux réflexes d'un pouvoir très vertical.
Et le matériel historique offre encore de nombreuses zones d'ombre.
Complètement. C'est pourquoi nous invitons chaque auditeur à s'y plonger pour forger sa propre lecture de l'histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion et à très bientôt.